Europe 1, il est 18h.
Ils sont en première ligne jour et nuit, par leur professionnalisme, par leur courage, par leur dévouement. L'hôpital tient. Nous savons tous, au fond, ce que nous leur devons.
Le geste du gouvernement pour les soignants des primes et la majoration de leurs heures supplémentaires, 1000 à 2000 euros promis en moyenne pour chacun.
Une aide aussi sera versée le 15 mai aux familles les plus démunies.
Les hôtels qui ne peuvent pas rouvrir pourraient bénéficier d'une annulation de leurs charges et aussi être sollicités pour héberger les malades en quarantaine. Nous passons un coup de fil dans ce journal au président de leur syndicat.
Dans ce journal également, le bras de fer à Marseille après les nouvelles déclarations du professeur Didier Raoult.
Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps.
Le virus qui disparaît déjà, le professeur Raoult va-t-il trop vite ? Réaction vive à Marseille et l'éclairage ce soir du docteur Jimmy Mohamed.
Et Donald Trump, de l'autre côté de l'Atlantique, qui ne veut plus payer pour l'OMS, on verra quelles peuvent être les conséquences.
Enfin, le soulagement des coureurs, le Tour de France aura bien lieu avec 2 mois de retard.
C'est une bonne nouvelle pour le vélo et puis pour la vie tout court, parce que le Tour de France, c'est la vie, c'est les gens, c'est tout ce qu'on n'a pas en ce moment, c'est le partage.
Départ confirmé le 29 août prochain. La Bourse de Paris rechute aujourd'hui et perd 3,7% à 4353 points.
Et du côté du temps, Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, demain, nous aurons encore pas mal de soleil sur une grande partie de la France. Mais sur la façade ouest, ça se couvre avec même des averses. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
L'enveloppe a doublé depuis la mi-mars. Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres un deuxième budget rectificatif qui prend cette fois en compte le prolongement du confinement et donc des aides d'urgence à l'économie. Plan qui atteindra les 110 milliards d'euros pour les entreprises, mais aussi pour le système de santé, avec des primes, Emmanuel Dutheil, qui sont annoncées pour ceux qui sont en première ligne.
Alors, on va commencer par la prime pour les soignants. Dans les départements les plus touchés, les personnels vont percevoir dès le mois prochain une prime de 1500 euros net. Et ceux des services qui ont accueilli des patients atteints du coronavirus dans les départements les moins touchés vont également toucher cette prime. Les autres personnels auront 500 euros. Tous verront en août leurs heures supplémentaires majorées de 50%. Il va aussi y avoir une prime à venir cette fois pour le personnel du secteur médico-social, notamment celui des EHPAD. Il y a également une prime de 1000 euros au maximum qui va être versée cette fois aux fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires qui ont beaucoup été sollicités avec l'épidémie. Cette prime sera versée par exemple aux enseignants qui gardent les enfants des soignants, aux douaniers qui font des opérations de contrôle ou aux surveillants pénitentiaires. Un fonctionnaire de la fonction publique d'État sur 5 devrait recevoir cette prime, soit 400 000 personnes.
Et puis autre précision apportée aujourd'hui, l'aide qui sera versée aux familles les plus démunies, Emmanuel Macron l'a annoncé lundi soir, il n'avait pas chiffré.
Alors, chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique recevra 150 euros chacune, plus 100 euros par enfant. Les familles touchant des aides au logement percevront de leur côté 100 euros par enfant. On attend aussi des détails pour une aide pour les étudiants les plus précaires.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie, 1 milliard d'euros sera aussi réservé aux entreprises en difficulté qui pourront désormais directement emprunter auprès de l'État.
Et on y reviendra dans le détail, dans les grandes voies avec Emmanuel Dutheil, entre autres à 18h30.
Et puis il y a le secteur du tourisme qui ne sait toujours pas quand il pourra repartir. Et nous passons ce soir le coup de fil du 18h à Laurent Duc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes patron d'un hôtel à Lyon et président du syndicat UMIH. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, annonçait ce matin sur Europe 1 que le gouvernement envisage d'annuler 750 millions d'euros de charges pour l'hôtellerie et pour la restauration des cotisations sociales. C'est indispensable à ce stade parce que de toute façon, beaucoup ne pourront pas payer.
Oui, puisque d'abord, le tourisme est affecté sur une longue durée. C'est pas simplement l'interdiction de travailler aujourd'hui qui est le plus préoccupant, mais c'est bien les mois à venir. Aujourd'hui, les frontières vont être fermées. Je rappelle que la France est la première destination touristique au monde en quantité de visiteurs. On a 20% de nos clients qui sont des gens qui ne sont pas natifs, du moins qui n'habitent pas en France. Et donc, on va faire se réinventer. Le consommateur va nous demander des nouvelles garanties, des gestes barrières, etc. Donc, si vous voulez, nos capacités vont être réduites dans les restaurants. Nos capacités sont réduites dans les hôtels, puisqu'on on ne pourra plus exercer notre métier comme on l'exerçait hier.
Quelle visibilité vous avez pour une reprise? C'est déjà foutu pour cet été? Est-ce que c'est ce que vous laissez entendre?
Alors, je dirais pas... Excusez-moi.
Ah, alors, voilà,
j'ai tout coupé, mais il faut carrément...
On est en direct, c'est pas très grave.
Excusez-moi. Je dis oui, pour cet été, si vous voulez, l'hôtellerie a perdu cette tradition de réservation longtemps à l'avance. L'hôtellerie est plutôt une réservation d'opportunité, un week-end où il va faire beau. Alors effectivement, il y a des gens qui vont une semaine ou 10 jours en vacances à l'hôtel, mais c'est quand même pas légion et c'est surtout des réservations d'opportunité. Donc je suis encore confiant que lorsque les gens seront plus confinés, ils auront des envies de déplacement et qu'ils pourront les faire. Et que de toute façon, ils ne pourront pas partir à l'étranger cet été. Donc je suis confiant pour que le marché domestique puisse permettre de faire une partie de la saison.
Et on ne peut pas trop réserver effectivement à l'avance cette année. Dernière question, Laurent Duc, parmi les pistes évoquées pour le déconfinement, on parle de loger dans les hôtels aux frais de l'État des malades en quarantaine pour les isoler. Où en êtes-vous là-dessus? Vous êtes prêt à le faire?
On s'est proposé. C'est une vraie solution. Elle existe déjà en Espagne. Elle existe en Allemagne aussi. Donc, lorsque les gens sont en quarantaine, ils vont à l'hôtel et c'est payé par l'État pour éviter qu'ils contaminent leur famille ou l'appartement dans lequel ils sont.
Et ça avance là-dessus? Ça va se faire?
On s'est engagé avec l'État. Alors il nous reste à mettre en place les gestes barrières. On est en train d'y travailler et d'ici la fin de semaine, ça sera opérationnel pour que les hôteliers aient les bonnes pratiques pour recevoir ce type de personnes.
Merci Laurent Duc, président de l'UMIH, l'Union des métiers de l'hôtellerie, d'avoir été en direct avec nous. J'ajoute que les tours opérateurs ont repoussé tout leur départ prévu jusqu'au 29 mai. Donc là aussi bien au-delà de la date du 11 mai.
Alors on l'a compris, hein, là encore avec cette réponse, le déconfinement est toujours en plein de certitudes. Quelles sont par exemple les personnes vulnérables qui devront rester encore à la maison au-delà du 11 mai?
Eh bien, elles seront nombreuses, si l'on en croit le président du Conseil scientifique. C'est lui qui oriente le gouvernement. Le président, donc le professeur Jean-François Delfraissy.
Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Ce sont les personnes d'un certain âge, donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors, tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc, de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminé et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, c'est pas un scoop, eh bien, on continuera le confinement. Dans des conditions, pour combien de temps, je ne sais pas. En attendant qu'on trouve peut-être un médicament préventif, mais il faudra poursuivre le confinement parce qu'elles sont à risque de développer une forme grave.
Voilà, 18 millions de personnes, soit un tiers des Français, la recommandation du professeur Delfraissy devant les sénateurs. On verra ce que tranche ensuite le gouvernement.
Et pendant ce temps, à Marseille, eh bien, l'optimisme d'un autre professeur, le professeur Didier Raoult, qui réapparaît dans une vidéo. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron était sur place la semaine dernière. Il réapparaît là dans une vidéo avec des pronostics qui en ont surpris plus d'un.
Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc il y a une diminution très très significative du nombre de cas détectés. Donc il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps d'ici quelques semaines pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires.
Voilà, l'épidémie est en train de disparaître. Alors que faut-il en penser? Va-t-il trop vite? On va s'y arrêter un instant. D'abord avec vous, Nathalie Chevance, à Marseille. C'est sur les chiffres de la ville que s'appuie Didier Raoult, mais les autorités sanitaires locales ont assez peu apprécié cette sortie. Hein.
Oui, et en particulier le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Philippe de Mester, qui parle d'un enthousiasme tout à fait prématuré. D'après lui, il est bien trop tôt pour pronostiquer une éventuelle fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que depuis une dizaine de jours, dans les hôpitaux marseillais, il y a une diminution de la progression de l'épidémie. Le nombre de malades en réanimation s'est stabilisé, les courbes s'atténuent. Mais d'après le professeur Jouve, membre du collectif Interhôpitaux, on ne peut pas lâcher comme ça dans une vidéo sur les réseaux réseaux sociaux que l'épidémie est terminée.
Il faut faire attention à la façon dont on formule les choses, mais surtout pas que les propos de Didier Raoult soient interprétés comme « c'est fini, rendez-vous ce week-end à la plage pour faire un barbecue ». L'affaire n'est pas du tout malheureusement conclue, parce que dans ce cas, il y a un risque majeur que l'épidémie reparte dans un pic. On meurt encore aujourd'hui en masse. Le personnel soignant et non soignant est à bout de souffle.
Voilà, il faut donc rester prudent pour éviter cette deuxième vague. Et l'ARS insiste bien pour l'instant sur la nécessité de rester confiné.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Le docteur Raoult est assez affirmatif sur le fait que le printemps va faire disparaître le virus. C'est évidemment notre espoir, mais de quels éléments scientifiques on dispose? Est-ce qu'on peut y croire?
Alors écoutez, il est affirmatif, moi je suis un peu dubitatif, même si c'est évidemment un éminent virologue. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que le virus serait peu thermolabile, c'est-à-dire peu sensible aux variations de température, et que la météo actuelle ne suffirait pas à faire arrêter l'épidémie. D'ailleurs en Afrique, même si l'épidémie est moins importante, il y a quand même des cas. Donc c'est une preuve que le virus pourrait continuer de se développer, même si d'une façon générale, les virus respiratoires, comme la grippe par exemple, n'aiment pas beaucoup la température. Mais là on vit quelque chose d'assez exceptionnel, un virus qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu. Et donc je pense qu'il est peut-être imprudent de s'avancer de manière aussi formelle à une époque où nous nous sommes beaucoup trompés. Donc je pense que nous devons être très prudents, ne pas miser sur la météo. Si tel était le cas, tant mieux. Mais à l'heure actuelle, je pense que faire des projections est peut-être risqué, voire dangereux.
Savoir raison garder donc impérativement. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Demain dans ce journal de 18h et puis dès 15h, c'est chaque jour avec Mélanie Gomez. Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Vous répondez aux auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte. Les affirmations du professeur Raoult, on va y revenir également avec les grandes voix dans 20 minutes maintenant.
Et s'agissant des outils du déconfinement, les masques par exemple, eh bien, ils pourraient être obligatoires dans les transports. Le patron de la SNCF notamment défend l'idée. Aujourd'hui, la ville de Cannes est la première à en distribuer à sa population. Et puis sur l'application mobile qui permettrait de prévenir lorsqu'on a croisé une personne contaminée, un débat aura lieu au Parlement. Débat sans vote les 28 et 29 avril.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h12. La suite du journal, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ces informations de dernière minute, des policiers ont dû ouvrir le feu et ont tué un homme qui les menaçait avec un couteau et qui se serait jeté sur eux. Ça s'est passé cet après-midi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Les agents contrôlaient le respect du confinement. Une enquête est ouverte, l'IGPN a été saisie. Et puis le crash d'un hélicoptère militaire près de Tarbes. L'accident a fait deux morts. Il y avait 7 personnes à bord. L'appareil appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau.
Et depuis le début de la crise maintenant, c'est l'institution internationale qui est au premier plan pour suivre l'épidémie. C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et désormais, depuis la nuit dernière, dans le viseur de Donald Trump.
Oui, qu'il accuse d'avoir dissimulé la gravité du virus. Du coup, le président américain suspend le financement des États-Unis. Condamnation unanime à travers le monde, y compris de la France, car les Américains sont les premiers contributeurs, Pauline Jacquot, de l'OMS. Quelles conséquences ça peut avoir ?
Eh bien, ça va dépendre évidemment du jour où le pays va concrètement arrêter son financement. Pour le moment, le président américain n'a rien précisé. Il dit attendre une étude qui pourrait durer un peu plus d'un mois sur le rôle exact de l'OMS dans la gestion de l'épidémie. Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis donnent environ chaque année 400 millions de dollars à l'OMS. C'est 15% du budget global. L'impact pourrait donc être important, surtout pour les pays les plus pauvres, en ce qui concerne l'approvisionnement des médicaments en Afrique, par exemple. Mais à ce stade, le risque est surtout politique, selon Frédéric Bizard, économiste de la santé.
Ça pourrait donner un mauvais exemple à d'autres pays, notamment des pays qui sont dirigés par des dirigeants un peu isolationnistes, voire populistes. Par exemple, on peut penser au Brésil. Le retrait du financement des États-Unis, qui s'ajoute quand même à un constat que l'OMS a été trop suiveuse des informations chinoises, fait qu'aujourd'hui l'OMS est quand même en grande difficulté.
L'enjeu, c'est donc aussi le crédit, la légitimité et la force de frappe de l'OMS. La menace américaine pourrait être l'occasion, selon certains experts, de réformer cette organisation en lui donnant un pouvoir de sanction et plus d'indépendance vis-à-vis des États membres.
Les précisions de Pauline Jacquot. L'Union européenne, elle, annonce une conférence des donateurs le 4 mai pour lever des fonds pour la recherche d'un vaccin. Et alors que le virus a fait 126 000 morts à travers le monde et déjà plus de 2 millions de cas recensés, les pays du G20 se sont mis d'accord pour suspendre pour un an la dette des pays les plus pauvres.
Et il y a un an, le ciel de Paris était embrumé par la fumée. On se souvient, Notre-Dame brûlait sous nos yeux.
Ce soir, à 20h précise, le bourdon de la tour sud de la cathédrale va se mêler aux applaudissements pour les soignants. Emmanuel Macron promet à nouveau, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, que tout sera fait pour tenir l'objectif d'achever la reconstruction en 2024. Pour l'heure, le chantier est à l'arrêt pour cause de confinement. On y reviendra dans le journal de 19h.
C'est habituellement le symbole hein, du début des grandes vacances. Les cyclistes sur les routes du Tour de France. Eh bien, cette année, c'est inédit. Ce sera à la rentrée.
Oui, le Tour s'est trouvé une nouvelle date. Le grand départ sera donné à Nice toujours, mais le 29 août, pour une arrivée sur les Champs-Élysées le 20 septembre, du jamais vu hein, dans l'histoire de la Grande Boucle. Mais le Tour aura lieu, et c'est bien l'essentiel pour les équipes, pour les sponsors, pour les coureurs, comme le grimpeur français Pierre Roland.
C'est une bonne nouvelle pour le vélo et puis pour la vie tout court, parce que bah, le Tour de France, c'est la vie, c'est les gens, c'est tout ce qu'on n'a pas en ce moment, c'est le partage, voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc on est content qu'il soit maintenu et on est content que ce soit le premier événement de l'après-coronavirus. Honnêtement, moi j'y ai toujours cru, à maintenir la date de fin juin, c'était compliqué. Mais à contrario, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit décalé aussi tard. Mais voilà, ça laisse le temps aux choses de se remettre un peu en place et ça nous laissera aussi le temps de nous entraîner tout simplement, parce que pour l'instant on est confinés chez nous et les entraînements sont très limités.
Voilà, Pierre Roland, coureur chez BNB Vital Concept, il répondait à Axel May.
Voilà, sourire retrouvé, on va continuer d'en parler hein, de ce tour inédit avec son directeur Christian Prudhomme, mon invité, exclusivité radio, c'est dans quelques secondes sur Europe 1. Merci à vous Sébastien Krebs. On se retrouve à 18h30. Absolument.